Cola,
vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposé par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices. Ça y est, c'est le jour J.
Oui, c'est le jour J-1, en fait.
On va enfin connaître le vainqueur ou la vainqueuse, je ne sais pas si ça se dit, du prix Robin Cook 2026.
Exactement, et ce sera samedi au Silex.
Avant de se retrouver au Silex, il y a tout un programme. L'association Culture Art Polar Sud-Aveyron nous invite à partager toute cette journée avec trois auteurs parmi les cinq candidats.
Makodou Atolodé pour Étincelle Rebelle, Jean-Marie Légoni pour Descente de Liste et Maya Thirier pour Sans Éden.
Mathilde Bosseau n'ayant pas pu venir
et Sophie Demange,
les Bouchères donc, et Mathilde Bosseau pour Les Sols ne pouvaient pas venir. C'est vrai qu'elles habitent très loin et Mio n'est pas toujours très bien desservie. Alors, le programme de cette journée, ça débutera à 8h30 par un petit déjeuner au Trenel avec les auteurs à la brasserie Les Colonnes, place Foch à Millau. Il faut réserver auprès de la brasserie Les Colonnes, c'est le 05 65 62 32 63. Ensuite, mon cher Florent.
Ensuite, nous amenons les auteurs à la rencontre des lecteurs dans les médiathèques. À Saint-Afrique à 10h30 avec Jean-Marie Légoni, à Cornus-Vallée, Larzac-Vallée, Maya Thirier, et à la médiathèque de Millau, Makodou Atolodé.
Voilà, les auteurs et autrices seront accompagnés par des gens de l'association qui animeront cet échange avec ces auteurs et autrices.
Voilà, présentation des œuvres, signatures, questions, réponses, une belle rencontre.
Voilà, le plaisir de faire, justement, j'allais le dire, de rencontrer des auteurs, de nouveaux auteurs, des gens qui se lancent, et puis peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont envie aussi de se lancer. Je pense aux personnes qui suivent les ateliers d'écriture, notamment, peut-être absolument, parmi eux, les futurs auteurs d'un premier polar. Et puis l'après-midi, ça continue.
L'après-midi, ça continue au Silex, à Millau, à 14h30, où nous aurons cette fois les trois auteurs tous ensemble pour une table ronde autour de l'intimité à l'édition, le polar sans racines. Voilà, on va parler un peu de la part d'intimité que les auteurs peuvent mettre dans un premier roman.
Sans racines, pour moi, il y a un jeu de mots.
Il y a un jeu de mots. Alors, sans racines du verbe enraciner. Ma foi, on posera peut-être des questions autour de la question elle-même.
Pour rappel, les gens qui ne connaissent pas encore trop le Silex, donc c'est une salle qui est au rez-de-chaussée du CREA à Millau. Cette table ronde se fera en partenariat avec Radio Larzac, qu'on remercie, et sera évidemment enregistrée et diffusée sur les ondes de Radio Larzac un petit peu plus tard. À l'issue de ce plateau radio, que se passe-t-il ?
Mais je pense qu'il sera temps pour les auteurs de faire signer leurs œuvres et de répondre aux questions du public présent, qui sera certainement nombreux. Et après toutes ces questions et les réponses, eh bien, on pourra enfin dévoiler le nom du récipiendaire. Ne vous moquez pas d'un inspecteur.
Ou alors ce genre de mot ne pas utiliser dans ce roman noir récipiendaire.
Oui, donc si, voilà, pas, bon, on verra bien qui c'est qui a reçu le prix Robin Cook 2026, et j'ai hâte. Et ensuite on partagera un verre avec le ou la vainqueur, voilà. S'il est présent.
Sur tous ces événements, la librairie Syllab sera présente et vous pourrez ainsi vous fournir en livre et puis les faire dédicacer par les auteurs et l'autrice.
Voilà, Syllab sera la librairie présente dans toutes les médiathèques le matin, là où interviendront les auteurs, et ensuite au Silex, bien sûr.
Et puis, parce qu'il faut le dire, l'organisation de cet événement est possible grâce au soutien de la mairie de Millau, du Fonds de développement de la vie associative, ainsi que des médiathèques participantes.
Absolument, et qu'on remercie chaleureusement 10 000 fois.
Donc, résumé, on vous donne rendez-vous ce samedi 27 à 8h30 pour un petit déjeuner au Trenel à la brasserie Les Colonnes, place Foch à Millau. Je rappelle le numéro pour réserver, c'est le 05 65 62 32 63. À 10h30, les auteurs et l'autrice se répartiront. Makodou Atolodé sera à la Messa à Millau, Maya Thirier à la médiathèque intercommunale Lazargues-Vallée à Cornus et Jean-Marie Légoni à la Missa, la médiathèque de Sainte-Afrique. Et l'après-midi, 14h30 à la salle du Silex au Créa à Millau. Et toute l'après-midi, on la passe avec ces trois auteurs et puis avec les membres et bénévoles sympathiques de l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron. Voilà pour cette magnifique journée du 27.
Absolument, ça va être une journée rafraîchissante au Silex entre 14h30 et 18h.
La vie de Paul Harvey et compagnie ne s'arrête pas ce samedi 27, bien sûr, puisqu'il y a toujours des auteurs ou des autrices qui écrivent des premiers romans. Le fouineur que tu es est allé en découvrir une.
Absolument, il s'agit de Corinne Stanciou-Lacroix, dont le roman vient tout juste de sortir et qu'on a eu la chance, la grande chance d'interviewer il y a 3 semaines de ça, pour son roman « La mansuétude des orques est immense ». Un génial polar rural qui se passe en Angleterre.
Et un titre qu'elle va évidemment nous expliquer.
Absolument.
On vous écoute tous les deux.
En 1455, Johannes Gutenberg a imprimé la première Bible.
Il ne recommence pas, hein, sinon...
Je vais briser tes os ! Je vais boire ton sang !
Et toujours comme ça, la première fois.
Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Corinne Stanciou-Lacroix pour son très beau polar au titre énigmatique « La mansuétude des orques est immense », édité chez Rouergue Noir. Bonjour Corinne Stanciou-Lacroix.
Bonjour Florent.
Vous êtes française, chirurgien-dentiste, oui. C'est une bio très oui. courte, hein, et vous avez travaillé, oui. ce qui a éveillé ma curiosité, comme experte à la cour d'appel de Grenoble. Aujourd'hui, c'est important évidemment, vous vivez en Angleterre, dans le Dartmoor.
En fait, j'ai habité Dartmoor pendant 4 ans, et maintenant j'ai glissé un petit peu dans le Southam. Mais mon bouquin, il parle des paysages de Dartmoor. Hein, c'est vraiment cette lande que je décris.
Alors effectivement, le roman, votre roman, La mansuétude des orques est immense, se situe dans le Dartmoor, où vit l'une des héroïnes de votre roman, qui s'appelle Colline, oui. qui s'est installée dans cette lande aride, mais boisée aussi, si je ne me
oui.
trompe pas.
Oui, 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 oui. oui.
Elle s'est installée avec Pierce, son nouvel amour, et Paul, son fils. Et leurs voisins les plus proches, c'est un couple d'éleveurs de Welsh Black, donc la race oui. de vaches locales.
Magnifique, magnifique vache
typique,
locale.
Voilà, oui. typique de la région, que vous décrivez très bien, avec beaucoup de tendresse. les voisins, oui. c'est Joy et Andy. Et nous voilà lancés littéralement dans cette histoire au parfum de mousse, de lichen, de lande, où des génisses vont être atrocement mutilées. Oui. Vous avez choisi de faire tuer des animaux, avant peut-être oui. d'autres crimes dans votre roman. Pourquoi ?
Je pense que c'est une façon de prendre de la distance. C'est une façon de pouvoir décrire des atrocités sans impliquer... sans choquer de trop parce que c'est peut-être un tort. En tant qu'humain, on est peut-être moins touché. J'ai imaginé que le lecteur serait peut-être moins, comment dirais-je, frappé de plein fouet si on exerçait, si on pouvait réaliser des atrocités sur des animaux plutôt que sur des êtres humains, en tout cas dans un premier temps. Et surtout, tant qu'à choisir un animal, autant choisir un animal qui soit un symbole de pureté, qui ne soit pas apte à se défendre, si vous voulez. Il n'y a pas plus... innocent qu'une pauvre génisse qui est dans son étable, qui est entre quatre murs, qui n'a pas de moyen de se sauver en fait, qui ne peut pas échapper à son destin et échapper à la cruauté de ses agresseurs. Donc c'est probablement un moyen pour d'emblée créer une atmosphère assez sordide, ouais, tout en prenant de la distance.
C'est, voilà, c'est vrai que c'est à la fois insupportable et supportable. Enfin, j'aurais voilà, du mal à exprimer, mais
c'est voilà, ça.
Votre livre, votre roman, bon, c'est à la fois sur les vaches, les chevaux, mais aussi sur les Anglais, sur leur campagne et leur art de vivre. Dartmoor, c'est aussi le pays du chien des Baskerville. Donc c'est oui, peut-être une région qui inspire comme oui, ça ces choses, ces ambiances un peu étranges. Je pense que c'est un peu ça, mais j'aime beaucoup votre style parce qu'il oscille doucement entre la violence et la nature, entre le naturel des relations humaines que vous décrivez dans de très bons dialogues, je trouve, et la violence du travail avec la nature ou dans la nature. D'autant plus que je trouve que vous vous attachez à donner de la vie à tous les protagonistes du roman, à commencer par l'enquêtrice, puisque c'est un polar, qui s'appelle Freya Di Maio. C'est elle qui va mener l'enquête. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est la relation qui se construit entre Colleen, donc, on va dire l'héroïne de votre roman, toutefois plus, mm-hmm, plus ou moins, et Freya. Colleen est l'inspectrice. Comment vous avez voulu construire cette relation ?
En fait, j'avais envie que ces personnages se rejoignent sur certains points communs qu'elles ont, sur sans doute une sensibilité ou voire une hypersensibilité qu'elles ont en commun, et que l'une et l'autre s'admirent réciproquement. En l'occurrence, je pense que Colleen admire d'emblée cette jeune femme qui lui fait forte impression, qui est passionnée de graffiti, par son savoir, par son enthousiasme. Et puis, elle découvrira au fil de l'histoire, son extraordinaire intelligence. Donc ça, c'est pour Colleen admirant Freya. Je dirais que ce qui les lie aussi, c'est cette capacité d'observation. C'est-à-dire qu'elles sont toutes dans une situation... Enfin, l'une, c'est son métier. L'autre, c'est parce qu'elle a changé de pays. Donc, elle se trouve un peu sur un terrain qu'elle ne connaît pas. Et donc, quand vous vivez l'exil, que vous exilez, que vous vivez dans un pays nouveau, vous avez tendance à observer beaucoup, plus qu'à parler, qu'à vous exprimer, vous observez beaucoup, et donc ça développe un sens de l'observation. Colleen développe ce sens de l'observation parce que, justement, elle arrive en Angleterre, elle qui est française, elle observe, elle tombe aussi dans un milieu rural. Il faut savoir qu'en Angleterre, les relations sociales sont très codifiées. Donc, les lecteurs le découvriront au fil du livre, mais il y a pas mal de traditions et de choses un petit peu étonnantes. Donc, elle est dans ce mode observation, et Freya est continuellement dans ce mode observation puisqu'elle est inspectrice. Donc, son job, finalement, c'est d'observer, de noter. Et donc, elles sont forcément attirées ou sensibles aux détails.
Ce que je trouve intéressant, c'est que Colleen ne devient pas l'adjoint ou le bras droit de Freya durant l'enquête, comme ça, d'emblée. Mais petit à petit, il y a une relation qui se crée, qui est assez intime, mais très légère. Disons que cette relation, elle prend de l'épaisseur à la fin du roman, et qu'on est amené à ça, quoi. Je trouve ça super intéressant, la manière dont c'est traité. Là, ça fait sororité douce, vous voyez ce que...
C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est le terme que... Voilà, j'aime cette idée de sororité, je voulais aussi en parler, la décrire, et c'est exactement ça, c'est une relation de sororité. Elle ne se force pas, elle vient naturellement, elle vient avec le temps et avec l'admiration que Freya suscite à Colleen. Donc elle a envie de l'aider, Colleen. Elle se trouve petit à petit impliquée aussi. Donc tout doucement, c'est très vrai ce que vous dites, elle a tendance à se rapprocher de Freya et elle va, sans toujours le vouloir d'ailleurs, mais l'aider.
Ouais, c'est un roman où il y a plusieurs portes, On peut rentrer dans le roman par le côté relation de la campagne anglaise, voilà, comme vous dites, le mode de vie, les interactions sociales. On peut rentrer dans le roman à travers la violence faite aux animaux. On peut rentrer dans le roman à travers la relation qui se crée entre Colleen et Freya. C'est une enquête qui vraiment sert de fil rouge, mais qui permet, enfin, au lecteur, à mon avis, de relire le livre avec plusieurs points de vue presque. même si on est souvent dans le point de vue de Colline. Ouais, mais voilà.
Ouais, je pense que c'est un roman sur l'enfermement. Et justement, Colline, elle va sortir de son enfermement et elle va. C'est des mondes qui vont se rapprocher, finalement.
Oui, ça pourrait être.
Celui de Freya et celui de Colline.
Ça pourrait être un monde assez, effectivement, claustrophobe, quasi. Mais,
oui.
Mais bon, vous donnez suffisamment de respiration pour qu'on puisse reprendre notre souffle. J'en reviens à ce que je pense être le cœur du roman, c'est-à-dire la maltraitance faite aux animaux de ferme ou aux animaux domestiques. Je pense aux chevaux, aux vaches, aux orques. Pour vous, cette violence, elle est toujours importée de l'extérieur ou est-ce qu'elle est intérieure, c'est-à-dire constitutive de la campagne, du travail à la campagne, du travail dans des centres pour animaux, en l'occurrence? Est-ce que c'est extérieur ou intérieur? Est-ce que c'est forcément...
Je pense que ce qu'il y a de plus difficile, insoutenable, je dirais, c'est surtout que cette violence, elle est rendue naturelle, c'est-à-dire qu'elle passe complètement inaperçue. Elle est complètement ancrée dans les mœurs de chacun. Par exemple, en allant vivre à la campagne, je m'étais dit que j'allais m'approcher de gens qui étaient forcément plus sensibles aux animaux et au bien-être animal, qui vivaient avec des animaux, donc qui allaient créer des liens. Mais je pensais trouver un plan d'égalité, ou en tout cas un peu plus d'égalité, un peu plus d'égard de la part de gens de la campagne vis-à-vis d'animaux qui finalement sont des compagnons de travail, des compagnons de vie. Mais en fait, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a une violence qui est omniprésente et qui finalement ne semble pas molester qui que ce soit. C'est ce qui m'a le plus frappée et c'est ce qui me heurtait en fait.
Là, je pense que tout le monde doit se demander, mais pourquoi les orques? Dites-nous tout.
Je ne veux pas révéler quoi que ce soit, c'est quand même un polar, mais cette idée d'orque, elle est venue d'un poster que j'avais gamine. C'était une photo d'orque qui sautait tout droit pour essayer de toucher un petit ballon rouge dans un bassin de Marineland. Alors, je voulais que ce polar parle d'animaux. Je voulais qu'il décrit pas mal de choses. Je voulais qu'il parle du rapport de l'homme avec les animaux, de la prééminence de l'homme mortifère. Je voulais qu'il parle de tout ça. Et donc, les orques se sont imposés à moi comme figure d'animaux super, avec des super pouvoirs. Voilà, parce que s'il est des animaux fascinants, ce sont quand même ceux-là. Les orques sont dotés d'une intelligence extraordinaire, absolument fascinante.
Mais ce que vous faites très bien, c'est faire le pont entre une enquête qui se passe dans le Dartmoor, une enquête très british, et la vie des orques. Ça, j'avoue que... C'est pas évident, comme ça. J'invite les lecteurs à découvrir ça, bien, c'est pas mal.
Mais ça fait partie de la part du mystère aussi. Je pense que le polar doit receler sa part de mystère.
Et je vais dire un dernier petit mot à toutes les auditrices et tous les auditeurs de PVC de maintenant propager la bonne nouvelle, puisque le premier roman de Corinne Stanciou-Lacroix, La mansuétude des orques est immense, est en librairie. Donc achetez-le. Laissez-vous happer par ce polar qui vous fera voyager. À mon avis, c'est la force de ce roman, une originalité qui apporte une bouffée de fraîcheur dans le polar. C'est vif, c'est agréable, c'est tendu, c'est parfait pour votre été. Voilà. Merci encore Corinne Stanciou. Et à bientôt, j'espère, pour votre futur roman. Il y a quelque chose dans les tuyaux, comme on dit.
Oui, je n'en dirai pas plus, mais oui.
Faites-nous signe.
Merci Florent, merci mille fois.
Eh bien, c'est nous qui...
J'étais absolument ravie de passer ce petit moment avec vous. J'aime beaucoup votre émission.
Ah ben, c'est gentil.
Oui, j'ai écouté, j'avoue que je ne la connaissais pas, mais maintenant, je peux vous dire que je vous écouterai régulièrement, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime cette ambiance, cette simplicité, cette proximité, et cet amour vrai que vous avez pour les polars. Je trouve ça génial.
Eh ben c'est super gentil. Moi, j'ai vachement aimé votre bouquin et puis tout le monde va le lire ici. Bravo et puis bonne fin de journée chez nos amis
Merci
anglais.
Merci beaucoup, Florent.
Put a spell on you. Cause you're mine. know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're not.
C'était Nina Simone, I put a spell on you, je te jette un sort, donc un sort dans le Dartmoor, pourquoi pas. Une chanson de Screaming Jay Hawkins, essayez d'aller voir sur vos plateformes musicales préférées la vidéo de Screaming Jay Hawkins, c'est complètement délirant.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
C'est pas interdit que je sache.
Corinne Stansu-Lacroix, dont vous avez entendu l'interview par Florent, autrice de La mansuétude des orques est immense, nous a conseillé des amis à elle qui, paraît-il, font un très bon vin dans le Bugey. Et nous sommes avec Emma. Bonjour Emma.
Bonjour.
Alors, est-il vrai que vous faites un très bon vin ?
Alors, les goûts et les couleurs, nous, on fait un vin qu'on aime bien, que Corinne aime bien, mais à charge à chacun de le goûter et de l'aimer ou pas. Hein.
Alors déjà, on va préciser, parce que vous êtes dans le Bugey. Alors, pour nous, Aveyronnais, le Bugey...
Ouais. Le Bugey, c'est dans l'Ain, c'est un massif montagneux qui est la fin du Jura, en fait, en termes géologiques. Et nous, on est vraiment à la frontière Savoie. On est à une demi-heure au nord-ouest de Chambéry. On est à une heure d'Annecy et une heure et demie de Lyon, quoi, pour situer un petit peu...
Et c'est un vin spécifique, c'est ni le vin de Savoie, ni le vin du Jura.
Eh ben non, c'est le vin du Bugey, c'est vraiment une petite appellation, il y a 500 hectares à peine de plantés, c'est assez confidentiel, c'est un vieux vignoble, hein, parce qu'on en retrouve des traces jusqu'au 15e siècle.
Et alors, quel cépage vous
Alors
vous
nous, on a des c'est un vignoble qui touche à tout, quoi. On a des cépages savoyards, donc nous, on a de la mondeuse, de la roussette, et alors après, des choses qui vous parleront pas, mais on a de la molette et de la douce noire, et on a des cépages aussi bourguignons, parce qu'on a du chardonnay et du pinot noir. Alors on a, en vraiment typique locaux, on a l'Altesse ou la Roussette, c'est un cépage qui a deux noms, qui est un vin blanc, que tu trouves facilement en Savoie et en Bugey. On a de la Mondeuse, qui est un cépage rouge, qui fait très peu d'alcool naturellement, donc qui est assez digeste, qui sont des cépages qui avaient vraiment très peu la côte jusque dans les années 50-60, qu'on a arraché un peu massivement. Pour l'uniformisation des goûts, hein, où tout le monde s'est mis à planter de la Syrah et du Pinot un peu de partout. Et c'est des cépages qui retrouvent un peu la côte avec malheureusement le réchauffement climatique, parce que du coup, ils font pas beaucoup de sucre, donc pas beaucoup d'alcool. Ils ont plutôt tendance à être tardifs, donc c'est des cépages qui sont intéressants. Donc dans cet acabit-là, t'as la Mondeuse, la Douce Noire, la Molette, la Jacquère, voilà. Il y a un gros panel de cépages, notamment savoyards. Les savoyards ont fait un très gros travail de conservation des cépages endémiques. Et du coup, il y a un joli catalogue à disposition des vignerons quand on veut planter.
Alors, je vois que vos vins ont de très jolis noms, Sarabande, Les Centes.
Oui.
C'est quoi les caractéristiques de votre vin ?
Alors, je vais parler un peu de la vigne d'abord, parce que le vin, ça vient de la vigne. Nous, on est en agriculture biologique, on cherche vraiment à avoir des pratiques paysannes avant d'être même agricole. Tu vois, on cherche à ce que l'agriculture qu'on pratique soit conciliable avec les autres espèces, quoi. Pour nous, c'est important qu'on puisse faire une agriculture qui puisse accueillir le vivant, quoi. Donc des sols couverts, des nichoirs, on plante des arbres, et on est donc sur des rendements plutôt petits, sur des vieilles vignes. C'est essentiellement du travail manuel. La vigne, pour moi, on est quand même beaucoup sur de l'accompagnement de la plante, à part la taille, qui est un geste qui est un petit peu impactant pour elle, mais sinon, on accompagne la vigne et on est en vinification dite nature, c'est-à-dire on fait du vin à partir du jus de raisin, quoi. On rajoute rien, on rajoute pas de levure, on se permet de rajouter des fois un peu de soufre avant les mises en bouteille, parce que c'est un peu chalutant pour le vin, mais pas sur tous les vins non plus, quoi.
Et alors, donc, les vins?
Eh ben, les vins, fait des vins avec de la texture. On aime bien des vins qui ont de la matière. Donc, on fait des élevages qui peuvent être longs. Les élevages les plus longs qu'on fait, c'est 26 mois dans des grands tonneaux en bois qu'on appelle des foudres, tant en blanc qu'en rouge. Après, on fait des vins un peu plus modestes en termes d'élevage. On est sur ce qu'on appelle, nous, des vins de terroir, quoi, vraiment des vins qui reflètent un peu le sol, le millésime, qui peuvent être des fois peut-être un peu, enfin rugueux, le mot peut être assez mal perçu, mais qu'on quand même de la matière, quoi, un peu qui ont du tanin pour les rouges, voilà.
Il y a certains qui sont des vins de garde.
C'est beaucoup des vins qui sont travaillés par de l'élevage, hein. C'est-à-dire que tu as différentes manières de travailler le vin avec des manières différentes avec l'oxygénation. Tu vois, enfin, tu peux faire des vins dans de la céramique, dans de la terre, dans du bois, et tout ça, ça amène un rapport à l'oxygène qui est différent. Et le vin est travaillé avec ça. Nous, on aime bien travailler avec du bois. Alors, c'est des vieux bois qui marquent pas, hein, mais ça amène des vins qui, du coup, il faut quand même que ta vendange et que ton premier jus soit de très bonne qualité, parce que tu peux pas faire des vins avec beaucoup d'élevage et des vins de garde avec une vendange où, par exemple, il y a eu un peu de pourri parce que l'année a été compliquée, ou au contraire c'est très sec. Enfin, il faut quand même un jus qui soit de bien équilibré, quoi. On a été formé entre autres sur Cornas, bon, avec de la Sierra, hein, rien à voir, mais je crois que ça nous a quand même pas mal travaillé, marqué ce côté faire des vins qu'on puisse boire dans le ton, quoi.
Tu viens de dire, on a été formé. Alors justement, tu as un parcours particulier. Alors, je ne sais pas, ton compagnon Michael, lui, est-ce qu'il a suivi le même type de parcours?
Eh bien oui, donc on est deux, mais je peux vite fait parler de notre histoire. Mais Mika, il vient des maths, il était en fac de maths, et puis il s'y retrouvait pas. Il est parti un an en Nouvelle-Zélande, et il a bossé dans des vignobles pourtant très très industriels en Nouvelle-Zélande, et ça lui a vachement plu. Et il est rentré et il a fait des vendanges chez quelqu'un qu'il connaissait pas dans le Jura, qui est en l'occurrence Pierre Auvernois, donc ce qui est quand même quelqu'un de très connu sur les vins nature. C'est un vieux monsieur très sage, et c'est un peu comme ça qu'il a eu la fibre, voire même l'étincelle. C'est quelque chose de presque pas spirituel, mais quelque chose qui a touché, je pense, une forme de conviction éthique. Et moi,
tu étais libraire.
Moi, j'étais libraire, ouais, c'est ça. J'ai d'abord bossé pour un réseau national de projets alternatifs en milieu rural. Notamment, j'avais fait des rencontres nationales dans l'Arzac en 2022 sur l'accès collectif au foncier. Et après, bon, je fais vite parce qu'après, il y a eu d'autres trucs, mais après, je suis devenue libraire par une rencontre amicale. Donc, je salue Fanny. Et j'ai été libraire 12 ans dans la Drôme à Cré. Et ça m'allait toujours pas, alors que c'était un boulot qui était censé être juste parfait. Et du coup, je me suis quand même demandé, qu'est-ce que je veux faire pour de vrai? Et donc, je suis arrivée sur la vigne comme ça, quoi. Ou en étant permanente, ou saisonnière, en fonction.
Je me suis adressé pendant un petit moment là avec la vigneronne. Maintenant, je vais m'adresser à l'ancienne libraire. Tu aimais le polar, d'ailleurs?
Eh ben, j'en lisais un peu. Pour moi, pour être tout à fait franche, le polar, c'était plutôt quand j'étais fatiguée. C'est la littérature pas distrayante, mais la littérature qui est plutôt accompagnante d'un état un peu de fatigue. Donc j'en ai lu, et c'est vrai que je me demandais, qu'est-ce que je pourrais parler comme polar.
Est-ce que tu aurais un auteur à conseiller?
Ouais, mais j'avais en tête que des vieux et enfin des vieux et des ultra connus. Puis après, je me suis dit que tiens, il y avait un petit polar que j'avais bien aimé d'un gars qui s'appelle Jean-Marc Croyon, qui est très peu connu, qui a écrit que quelques livres, qui est plutôt issu du monde du théâtre. Et qui écrit à la version un peu Titi Parisien, mauvais garçon, avec énormément de jeux de mots. C'est très drôle. C'est aussi très humain. Enfin, vraiment avec de la gouaille, quoi. Voilà. Mm-hmm. En version policier sur des histoires un peu mafieuses, mais l'écriture est assez jubilatoire. J'ai un petit conseil à faire. Ça s'appelle Joblard. Son héros s'appelle Joblard et l'écrivain s'appelle Jean-Marc Croyon.
Je pense que Lionel de l'association Cap Polar doit connaître. Moi, personnellement, je ne connais pas.
Mais c'est vraiment assez confidentiel, hein, ce dont je parle. Mais s'il connaît, trop bien.
Emma, ben, je te remercie beaucoup.
Eh ben, je t'en prie. Bonne soirée. Puis merci, merci de nous avoir mis en valeur. Et merci à Corinne.
Faudra remercier Corinne. Florent a donc réalisé une interview de Corinne Stassiou-Lacroix. Nous en avons retiré des extraits étant donné la durée limitée de notre émission. Par contre, vous pouvez retrouver l'interview complète qui vous sera diffusée lundi à 21h et mercredi à 10h. C'est la fin de cette émission. On rappelle vite fait le programme de ce samedi 27.
8h30, Trenel, petit déjeuner aux colonnes, place Foch. 10h30, Saint-Afrique, rencontre avec Jean-Marie Légoni pour le roman Descente de liste. À Cornus-Larzac-Vallée, à la médiathèque, rencontre avec Maya Thirier pour Sans Éden. À la Messa de Millau, avec Makodou Atolodé pour Étincelle rebelle.
Et l'après-midi, à partir de 14h30, un plateau radio en partenariat avec Radio Larzac, dont la thématique est
le polar sans racines, de l'intimité à l'édition.
Donc vous pourrez échanger avec ces trois auteurs. Ce plateau radio sera animé par Florent, bien sûr, puis sera donc annoncé le résultat.
Absolument.
Puis après, ça se terminera, comme toujours, avec un verre de vin.
Exact.
Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous à tous ce samedi. Alors, Florent, que fais-tu ce samedi ?
Alors moi, personnellement, je vais prendre des Trenel au petit déjeuner, aux colonnes, place Foch.
Pour commencer la journée.
Absolument.
Et puis, 10h30, 14h30, etc., etc. Makodou Atolodé, Maya Thirier, Jean-Marie Légoni. Voilà, prix Robin Cook 2026, ce sera terminé pour cette année. Au revoir et à samedi.
À samedi.